Europe 1, en balade avec Fanny Ardant. Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon dimanche. C'est avec Fanny Ardant que nous partons ce matin en balade. Ardente et passionnée, non-conformiste, elle aime la tragédie, elle aime la comédie, elle aime la vie, elle aime l'amour. Aujourd'hui, elle tient le rôle principal de Ma mère est folle, le nouveau film de Diane Curis. Elle nous a donné rendez-vous au Quartier Latin, dans les arènes de Lutèce.
Frédéric Taddeï, en balade avec Fanny Ardant sur Europe 1.
Bonjour Fanny Ardant.
Bonjour.
Nous avez donné rendez-vous au arènes de Lutèce, dans le 5e arrondissement. Pourquoi ici? C'est un endroit assez peu connu des Parisiens.
Hein. J'aime beaucoup cet endroit. Mais si vous me demandez pourquoi, vous savez bien que les raisons obscures d'aimer les choses, oui. C'est plutôt comment.
Comment l'avez-vous découvert?
En errant. Justement, ce que j'aime dans cet endroit, c'est pas pour les bœufs de touristes.
Il y en a peu.
Oui, et puis c'est pour les rendez-vous clandestins.
Exactement.
C'est pour les deals. Oui. Et puis, il y a d'un côté les immeubles, de l'autre côté les arbres. Et puis, il y a ce côté magique des gradins à la grecque.
Comme ça. Ben oui, à la romaine, puisque oui. Ce sont les Romains, les Gallo-Romains, oui. Qui l'ont construit au 1er siècle avant Jésus-Christ. Il paraît qu'il y avait 17 000 places. Vous vous rendez compte, à une époque où, je sais pas, Lutèce devait avoir 20 000 habitants. Comme quoi, on aimait vraiment les jeux à l'époque.
Oui, hein. Oui.
Il y avait des combats de gladiateurs, oui. Il y avait des combats avec des animaux. Ça vous aurait plu, cette époque?
Moi, j'aime assez la violence.
Il me semble, oui.
Oui. Mais je suis toujours, vous savez, pour la corrida, je suis pour le taureau.
Bah oui, et la donc, violence est dans les deux sens.
Oui, donc je veux que le toréador soit tué.
À l'époque, généralement, on était tué par les animaux dans les arènes.
Oui. Hein. Mais là, je serais pour l'homme tout seul, comme vous vous rappelez, Spartacus. Quoi.
Aujourd'hui, dans cet ancien amphithéâtre, on joue à la pétanque ou au football, oui, il y a surtout oui. Des enfants. Je me suis dit que ça devait vous rappeler l'Italie, Rome, où vous avez
oui,
longtemps
oui,
vécu.
Oui, et puis ces places désertes. Et aussi pour les rendez-vous clandestins. Et même, je pense souvent à des metteurs en scène, je leur disais, si vous ne trouvez pas de salle pour répéter, allez aux arènes
de Lutèce.
Tout le monde s'en fout de ce que vous faites. Donc vous pouvez tout d'un coup déclamer.
Oui, voilà. C'est vrai. Il est formidable ce nom, Fanny Ardant, quand je le prononce, je me dis il est beau comme un pseudonyme. On dirait que vous l'êtes choisi.
Comme Sarah Wang, tu vois.
Oui. Non, Fanny Ardant, c'est tellement beau. Ouais, c'est ouais. Irréel quand on y pense.
Oui, souvent on m'a demandé si c'était un vrai nom. Ouais. Ma è vero.
Eh oui. Quand vous voyez les places où l'on s'asseyait autrefois, ça vous fait penser à vos débuts au théâtre?
Non.
Vous n'y pensez jamais?
Si.
Quand vous jouiez Corneille, Racine, Claudel.
Si. Mais curieusement, je me souviens des textes. J'ai comme un trou noir à la place, parce qu'il y avait très peu de gens dans les bancs.
Ouais.
J'ai eu pas mal de fours. Mais curieusement, un jour, je parlais de ça, et je pense que les insuccès m'ont plus galvanisé que les succès.
Comment l'expliquez-vous?
Je pense que quand le rideau rouge s'ouvrait, et qu'il y avait 10 personnes, donc il y avait... Un chagrin, et immédiatement après le chagrin, il y avait une joie en disant « je vais jouer pour vous ». Et ces 10 singularisés étaient beaucoup plus importants que 1000 personnes.
Vous vous souvenez des textes, dites-vous, vous vous souvenez de votre première phrase, la première fois que vous
oui.
êtes monté sur scène?
Oui.
C'était dans quoi?
C'était dans Andromaque, et je jouais Hermione.
Beau rôle.
Et je disais « je veux savoir, Seigneur, si vous m'aimez
». Ça commençait bien.
Je me rappelle, j'étais partie en tournée. Oui, on se souvient de comment on était porteur d'un texte magique et que je marchais à 5 cm du sol, j'aurais changé ma place avec personne. Et succès, un succès, ça m'était égal. Vraiment.
Ouais.
Vraiment. Parce que c'était dire ça, finalement. C'est pour ça que le théâtre, on ne doit choisir qu'un texte qui vous excite. Est-ce que vous mourriez de ne pas le dire?
Oui, oui, ça excuse l'absence des spectateurs, éventuellement.
Vous savez qu'il y a cette loi, d'ailleurs. Pourquoi il y a cette loi? Que vous devez jouer s'il y a deux personnes, plus une. Si vous êtes seul en scène et qu'il y a deux personnes dans la salle, vous devez jouer. Donc vous voyez, ça veut dire qu'on considère que ce que vous donnez doit être reçu par le même nombre de personnages, plus un, c'est-à-dire votre ange gardien.
Ouais.
Je me rappelle de Tony Gatliff qui m'avait raconté que son premier film, il était à la sortie, il y avait 10 personnes. Et il les avait invités à dîner. Et j'adore ça.
Oui, c'est vrai.
Parce qu'ils deviennent concrets, ces gens-là. Je trouve que j'aime bien, dès qu'on peut, mais je pense que même dans la vie ou dans les opinions, c'est 1 plus 1 plus 1. Je ne crois pas au groupe.
Au groupe, au collectif.
Non. Je sais que chaque voix est importante, tu vois, et que ce que j'aime aussi, c'est les voix contradictoires. Donc, je pense pas qu'il n'y a pas de masse pour moi.
On se retrouve dans un instant avec Fanny Ardant dans les arènes de Lutèce, à présent envahie par les enfants qui jouent au ballon, qui ont des rendez-vous clandestins, comme elle dit.
Ouais,
à tout de suite.
Frédéric Taddeï, en balade avec Fanny Ardant sur Europe 1.
Frédéric Taddeï est en balade comme tous les dimanches jusqu'à midi et demi et aujourd'hui il est avec Fanny Ardant et d'ailleurs on vous retrouve où Frédéric ?
Nous sommes toujours dans les arènes de Lutèce, dans le quartier latin, dans le 5e arrondissement à Paris avec Fanny Ardant. Fanny Ardant qui tient le rôle principal de Ma mère est folle, le nouveau film de Diane Curis. Vous y jouez une excentrique, une menteuse qui veut faire un go-fast, ramener de la drogue en voiture de Hollande pour rembourser ses dettes. Ça m'amuse parce que j'ai l'impression que vous avez toujours joué au fond les gangsters, mais sans jamais tenir de revolver. Vous, votre truc, ce serait plutôt le couteau, à mon avis, hein, plutôt que les revolvers.
Il y a plus de noblesse dans le couteau,
et oui,
parce qu'il faut y aller. Hein.
Et oui, il faut du courage.
Ouais.
Non, mais c'est vrai, vous avez toujours joué les gangsters de la morale, les gangsters de l'amour. Vous êtes toujours quoi, en marche de la loi,
oui,
et de l'ordre.
J'aime beaucoup les outsiders.
C'est ce qui vous a, j'imagine, plus immédiatement en lisant le scénario.
Oui, ce que j'aimais dans ce rôle de Nina, c'est qu'elle ne se résignait jamais. Que devant l'échec, la ruine prochaine ou les illusions perdues, elle se battait.
Et elle ment encore.
Elle ment, elle invente, elle affabule et ça me plaît beaucoup. Et avec ce fils qu'elle a sûrement dû entraîner dans une vie rock'n'roll, un amour fou.
Mais un fils un peu timoré, c'est souvent la oui, rançon que doivent payer les femmes excentriques. On leur prête, en tout cas, on leur prête, je ne sais pas. On leur prête des fils timorés, des fils qui sont obligés de devenir le père de leur mère, au fond, c'est
oui,
ça.
Hein. Ou alors ça serait un match de boxe sans arrêt. Il y a des routes fascinantes. Et si votre mère... Moi, je pense que mon fils a eu tort de ne pas me suivre dans l'histoire qui nous regarde. Ouais. Parce qu'il est... Elle va lui apprendre à vivre en écartant les murs, peu importe, allez, n'aie pas peur de ton ombre.
C'est marrant parce que c'est un peu un film féministe, vu que c'est la femme qui est le moteur de l'action. Déjà, Vivement Dimanche, le film de Truffaut dans lequel vous jouiez le rôle principal, c'est vous qui aviez les clés de la voiture. Jean-Louis Trintignant était obligé de rester chez lui, il était enfermé. Et au fond, tout ça, c'est le Vivement Dimanche, c'était avant Thelma et Louise. Parce qu'on dit toujours Thelma et Louise, c'est le premier film où les filles ont les clés de la bagnole. Mais non.
Moi, je pense toujours que quand je regarde le cinéma français, quand on parle des auteurs français, tout c'est la nouvelle vague, etc. Ou même la littérature française, mais depuis longtemps, chercher la femme.
Toujours.
Tout est construit autour de la femme.
C'est toujours elle qui a
le rôle moteur, à cause de quoi est arrivé tout.
Vous pensez que c'est une spécificité française, ça ?
Très française.
Au fond, on a toujours connu l'égalité entre les sexes.
Alors, on n'attendait pas la loi pour l'avoir, l'égalité. Moi, je trouve qu'il ne faut pas attendre les lois pour prendre le pouvoir. Sinon, d'un seul coup, on vient comme un petit mouton qui dit « Ah, je vais vous dénoncer ». Mais quand on a pris les trucs en disant « J'ai pas peur de vous »,
Aujourd'hui, il est de bon ton de dire que les femmes ont été victimes jusqu'à 30 ou 40 ans. Vous n'y croyez pas ?
Mais moi, je n'ai jamais rarement parlé au nom d'un groupe. Donc moi, je n'ai parlé qu'en fonction de ma biographie. Et j'ai grandi avec des hommes exceptionnels. Donc l'image des hommes que je me suis faite était magnifique. Et que j'étais quelqu'un qui voulait être libre. Donc la liberté, je l'ai arrachée. Je n'ai pas demandé la permission. Je n'ai pas demandé qu'on me protège. Alors, mais je comprends peut-être qu'on puisse protéger quelqu'un de plus fragile. Mais je peur toujours des lois qui sont faites pour amalgamer tout le monde.
Oui, pour protéger les plus faibles, généralement. Ça, on bride l'effort.
Ah oui, mais peut-être. Allez, l'effort, il s'en sortira toujours, non ?
Bah, faut espérer que le faible aussi.
Oui, je pense qu'une loi est faite pour protéger les faibles, mais que le fort ne doit pas faire amende honorable. Et je pense aussi que si j'étais née dans un pays en Afrique ou dans certains pays arabes, mon discours aurait été le même. Mais je veux pouvoir parler en croyant ce que je dis, en le payant comptant. et en assumant les conséquences de mes paroles.
Est-ce qu'il vous est arrivé au théâtre, au cinéma, de ne pas croire ce que vous disiez, à savoir tout à coup de vous rendre compte que vous n'êtes pas du tout cette femme-là et qu'elle vous gêne un peu, celle que vous êtes en train de jouer? Je me souviens d'avoir lu, c'était un livre qui vous était consacré, Ardent Ardent, je crois que ça s'appelait. Dedans, vous disiez, ou en tout cas on vous prêtait ce propos, qu'en voyant Fenêtre sur cour, le film génial de Hitchcock, vous étiez identifié ni à Grace Kelly, ni à James Stewart, mais au voisin d'en face qui tue sa femme.
Oui, c'est vrai.
Mais là, pourtant, c'est lui que vous auriez aimé jouer.
Oui, je semblais très solitaire et très vulnérable. Et pourtant, moi, je suis quelqu'un qui aimerait avoir des jumelles. Tu vois, j'aime beaucoup l'idée de regarder chez les autres.
Ouais.
Avoir quelque chose comme une autre histoire.
Là, c'est le comble du narcissisme, c'est regarder dans les jumelles et se voir soi-même.
Pas toujours, parce que moi, je sais qu'en face de chez moi, il y a quelqu'un qui a un abat-jour rouge et qui l'allume à une certaine heure. Mais comme moi, j'ai un grand arbre devant chez moi, je ne vois que cette lumière rouge. Et je me dis que tant que j'aurai cette lumière rouge, je ne me jetterai pas par la fenêtre.
Ça vous aurait traversé l'esprit, sinon ? Vous aimez trop la vie.
Oui.
Et la tragédie aussi. Pour ne pas la vivre jusqu'au bout.
Non, oui. Mais en même temps, on a toujours cette sorte de voile noire sur la tête de temps en temps.
On peut en faire une comédie.
Ah ben, on peut tout. Toi, l'humour ne doit rien épargner. Enfin, ça, il y a eu longtemps des polémiques là-dessus. Ouais. Mais je crois à ça.
Europe 1.
On continue notre balade avec Fanny Ardant. On va quitter les arènes de Lutèce, mais on reste dans le quartier latin qui semble lui être cher. On va lui demander pourquoi.
Frédéric Taddeï, en balade avec Fanny Ardant sur Europe 1.
Si vous aussi, vous vous demandez où est-ce qu'on peut croiser Fanny Ardant, eh bien, écoutez la suite de sa balade avec Frédéric Taddeï.
Nous sommes en balade avec Fanny Ardant. On est dans la rue Saint-Séverin, une rue très touristique aujourd'hui, mais qui conduit à l'église Saint-Séverin. C'est votre quartier, le quartier latin, Fanny Ardant ?
Oui, c'est là où j'habite.
Ah, je me suis toujours demandé où est-ce qu'on peut rencontrer Fanny Ardant à Paris. Donc en fait, la réponse est dans le quartier latin.
Ouais.
Je pense toujours à cette histoire que vous m'aviez racontée un jour, que vous avez voulu vous faire engager au Playboy Club à Londres et qu'on vous avait recalé, vous vouliez être muni, on vous a recalé et vous êtes retrouvé à l'administration dans les bureaux.
Oh, vous avez une bonne mémoire.
Ah bah oui, c'est une tellement belle histoire. D'abord, on se dit, ils ont été bêtes de vous recaler et puis ensuite on se dit, mais qu'est-ce qu'elle voulait faire dans le Playboy Club? Pourquoi devenir muni?
Juste un temps pour gagner ma vie et puis après...
Mais bon, il y a tellement de manières de gagner sa vie.
La gagner facilement.
Vous pensez? Il y avait de bons pourboires?
Non, mais chanter, danser, faire les idiotes.
Oui, bon,
tous les soirs de 11h à 2h.
Ah oui, c'est ça. Mais enfin, on a une tenue ridicule, on a un petit lapin, une petite queue de lapin, des oreilles de lapin, et on est quand même très déshabillés.
Mais du coup, moi, je crois que c'était moi. Après, elle venait toute me parler le soir, fumer des cigarettes dans mon bureau.
Vous faisiez quoi, vous, les fiches de paye?
Oui, ou les trucs où on mettait les adresses, les fichiers, quoi.
Et vous regardiez de temps en temps?
Oui.
Parce que les hommes viennent, on parle avec eux, non? Je ne suis jamais rentré dans un Playboy
jamais.
Club, non. J'ai été dans des tas d'endroits louches, je vous rassure, mais pas dans un Playboy Club. Ça paraît trop institutionnel.
Il y avait les beaux Anglais qui riaient comme des chevaux, vous savez. Moi, j'ai un souvenir magique de ça. Peut-être que parce que j'étais outsider, là aussi. Je n'avais pas d'argent, j'étais complètement laissée sur le bord du chemin.
Mais vous aviez fait Sciences Po avant,
oui.
Non ?
Oui, mais...
Ça ne vous intéressait pas ?
Si, ça m'a beaucoup intéressée, mais moi, je trouve que ce que j'aime dans les études, c'est les études qui ne vous apportent pas un métier. Il ne faut pas faire ces études pour avoir un métier. Il faut faire des études pour vous ouvrir les horizons. Et puis après, on choisit. Mais pas... Je trouve que ça serait dommage que des études universitaires soient la succursale d'un métier. Ça voudrait dire que vous êtes programmé juste pour avoir un métier ? Que barbe !
Je crois que vous aviez fait un mémoire sur anarchisme et surréalisme.
Voilà, absolument, absolument.
Je pense qu'il y a de commun aux deux, c'est la liberté.
Mais parce que moi, j'étais très... Je n'aimais pas Breton. parce que déjà, il était sectaire, André Breton.
Oui, il était communiste assez vite, d'ailleurs.
Oui, voilà, tu vois, un seul ordre de pensée, etc. Mais j'aimais, par exemple, un homme, qui, je crois que c'était Picabia, qui disait « Je suis l'apôtre de la mauvaise conduite ».
Oui, et Picabia, peintre surréaliste.
Tout ce mouvement, vous savez, les dadaïstes, tout ça, tout ce mouvement où tout d'un coup, il ne faut en aucun cas l'imiter. Oui, une fois, en aucun cas, sans dire qu'on vient d'eux, puisqu'ils ne voulaient rien. Ils ne voulaient pas d'avant, ils ne voulaient pas d'après.
Mais avec tout ça, vous devez un peu vous ennuyer dans le cinéma français, non?
Moi, je m'ennuie
celui
jamais.
D'aujourd'hui, je me dis.
Mais je crache mon venin. Et puis, il y a quelques fois, je marche à 2 cm du sol, mais bon, moi, je pense toujours qu'il y a la place pour tout le monde.
Oui.
Et après, je trouve que tout ce qui est intéressant est souterrain.
C'est l'underground.
Oui.
Oui.
C'est ça qui va changer le monde. C'est pas,
tu vois, on pas l'establishment.
Non, et c'est pas le succès non plus.
C'est normal, ce sont les contestataires.
C'est quelque chose, c'est une voix qui parle loin, tu sais, qui annonce, et puis que tout le monde a piétiné.
Oui, c'est souvent arrivé comme ça.
Oui, et qu'après que c'était eux qui ont disait, mais ils l'avaient dit depuis des...
Au fond, quand on vous a refusé au Playboy Club, on vous a un peu piétiné. Et maintenant, vous vous vengez.
Non, parce que moi, comme je vous ai dit dans le début de la conversation, j'aime l'idée d'être au bord du cadre, d'être dans le tableau, mais pas complètement.
Et
d'être
celui
qui est dans le tableau et qui regarde le tableau.
Oui, la marche fait toujours partie de la page.
Mais après, moi, j'ai fait plein de petits d'autres travaux où je trouvais toujours aussi, pour gagner sa vie, il faut faire un truc qui ne vous encombre pas l'esprit. Parce que si on a dominé votre esprit, vous êtes perdu. Si vous avez un métier juste pour gagner de l'argent. Hein.
Oui, oui, bien sûr.
Mais si vous êtes vous faites de la recherche scientifique, vous vous en fichez de combien vous allez être payé. Ou si vous êtes pianiste, vous ne trouvez pas que vous vous en fichez?
Sauf si vous êtes pianiste de bar.
Oui, mais ça, c'est en attendant d'être...
Ou après, parce qu'on a renoncé. Oui. Vous auriez bien vu, pianiste de bar.
Ah bon, j'aurais adoré. Mais avec la permission de fumer. Vous vous rappelez pas ce film avec... C'était un film avec Ida Lupino. Où elle pose ses cigarettes sur un piano blanc. Donc on voit toutes les marques de brûlure. T'imagines maintenant?
Ida Lupino, qui était une formidable actrice, mais qui en plus était la seule réalisatrice d'Hollywood. À une époque, il n'y avait plus aucune femme qui avait le droit d'être réalisatrice.
Qui en parle très bien, c'est Scorsese.
Ah bon?
Il connaît bien le cinéma d'Ida Lupino. Ouais. Parce que c'était quand même assez extraordinaire.
Il paraît que quand dans les réunions à Hollywood, on disait messieurs les réalisateurs et madame Lupino. Il n'y avait que des hommes.
Lupino, qui veut dire petit loup. Hein.
C'est vrai que vous parlez italien. On est devant l'église Saint-Séverin. Vous l'aimez particulièrement, cette
Beaucoup.
Église? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle vous a fait?
Elle m'a consolé.
Ah oui?
À l'intérieur, c'est une des plus belles églises que je connaisse. Parce qu'elle tourne.
C'est vrai? Oui. Sur elle-même?
Ou sur vous-même?
Ah, je crois que c'est là où il y a les cloches les plus anciennes de Paris.
Et elle sonne de temps en temps.
Et si je me souviens bien, il y avait une chapelle avant et elle a été détruite par les Vikings.
Pas mal. Donc il n'y a pas que les promoteurs immobiliers. Comme
Je vous propose d'écouter un disque, Fanny Ardant. C'est un disque, c'est une chanson de vous d'ailleurs, avec Alex Baupin. Vous vous souvenez du titre? J'ose pas le dire.
Moi non plus. Baiser tout le temps.
Voilà, c'est ça, c'est baiser tout le temps. Ben, on l'écoute.
Ne me parle pas. Tu n'es pas à vendre. La vie que tu as. Je veux pas l'entendre. On sait d'où on vient. Tous ces morts qu'on traîne, rangés avec soin. Mais c'est pas la peine
de me parler d'eux. Je n'écoute rien. Dis, soyons sérieux. Allons dans un coin. Fumer dans tes yeux. Voir passer le temps. Et baiser un peu. Baiser tout. Ne te moque pas, je
suis presque fou. Mets-toi dans mes bras, mets-toi à genoux. Et bien ça en tête, j'ai l'amour en haine, l'amour en si bête. Aimons-nous à peine, la vie c'est bien mieux sans ce baratin. Mais soyons sérieux, allons dans un coin, fumer dans tes yeux, voir passer le temps et baiser un peu, baiser tout le temps.
C'était Baiser tout le temps, une chanson écrite et composée par Alex Baupin. Vous interprétez en duo avec lui. Vous la trouvez comment cette chanson avec le recul ?
Avec le recul, je la trouve en désespoir de cause. Quelqu'un qui est si malheureux qui dira « Allez, la première personne qui arrive, j'aurai une chaleur avec elle. »
Eh bien, on se retrouve juste après une pause avec Fanny Ardant dans l'église Saint-Séverin.
Frédéric Taddeï, en balade avec Fanny Ardant sur Europe 1.
Frédéric Taddeï et Fanny Ardant sont toujours en balade dans les rues de Paris. On les retrouve tout de suite à l'entrée de l'église Saint-Séverin dans le 5e arrondissement.
Il y a une messe. On va ressortir. On va aller dans le cloître. Donc, vous l'avez compris, il y avait une messe. On est ressorti de l'église Saint-Séverin. On est dans le cloître, là où autrefois était le charnier. C'était le cimetière, vous savez. Vous venez souvent ici ?
Très.
C'est très, très joli. Hein.
Oui. Et puis, vous avez vu la force des racines de cet arbre et le calme. Tout d'un coup, vous entendez les rumeurs de la ville, mais en même temps...
Alors, il y a de très beaux arbres. Il y a une statue de la Vierge. Oui. Avec l'enfant Jésus.
Il y a un petit reste de cloître.
Ouais. D'où ça vous vient, votre amour de la tragédie ? On voit bien dans les films que vous avez réalisés, hein, c'est toujours très sombre, très noir.
Oui. Je crois qu'il y a toujours... Parce que dans la tragédie, il y a un troisième acte. Il y a quelque chose qui vient fermer l'histoire. J'aime les choses résolues.
En même temps, dans la tragédie, il y a quelque chose d'inéluctable, comme si on ne pouvait pas y échapper.
Oui, c'est exactement... Parce que sinon, c'est un mélodrame, ou c'est un drame. Mais non, tragique, c'est que de quoi qu'il arrive, on n'aurait pas pu s'en sortir.
C'est drôle quand on y pense, vous êtes né à Saumur, mais vous avez grandi à Monaco. Votre père était officier de cavalerie, je crois. Hein, et il était le gouverneur militaire de la principauté. Il était ami avec le prince Rainier. On se dit qu'une enfance à Monaco, ça ne prépare pas ce goût pour la tragédie, pour la violence, pour les excès de toutes sortes.
Mais bon,
comment vous êtes devenu à ce point une hors-la-loi après une enfance pareille ?
Je pense que je n'ai pas aimé l'école.
Ce serait pour ça.
Et que je n'avais pas d'amis. Donc, il y a une sorte de... J'ai appris une famille très liée, que j'aimais, mais rien de bon ne pouvait m'arriver du social. Tout se trouvait dans la tête ou dans le cœur. Je n'ai jamais cru aux liens sociaux.
Pourtant, vous avez fait du cheval, joué
tout
au tennis...
vous montez à cheval tout seul.
Oui.
Vous jouez au tennis pour battre l'adversaire.
Oui, c'est pas le football, c'est pas une équipe.
Et j'ai jamais joué aux boules, à la pétanque. Ouais. Non, j'ai jamais fait partie d'une équipe.
Vraiment, même au théâtre, d'aucune troupe.
Non.
Et sur un tournage, quand même, vous êtes très social. Alors, tout le monde vous adore sur un tournage, parce que vous mettez une ambiance folle.
Ah bon ? Mais moi, ce que j'aime dans un tournage, justement, c'est comme une petite création du monde. Il y a un début, un milieu, une fin. Et comme c'est intense, et comme vous savez qu'inexorablement, vous allez les quitter, c'est un peu comme, vous savez, les grandes vacances. Est-ce que vous avez un souvenir précis de vos grandes vacances ? Moi, je ne voulais pas gâcher un quart d'heure des grandes vacances, parce que je savais qu'inexorablement, je devrais retourner à l'école. Il y avait ce côté, même s'il pleuvait, même s'il faisait mauvais temps, c'était les grandes vacances.
Tous les tournages sont des grandes vacances.
Oui.
Y compris ceux sur lesquels vous êtes la réalisatrice. Parce que là, ça vous donne beaucoup de travail.
Oui, mais par exemple, comme si, allez, je ne vais pas gâcher par un état d'âme ou par une sorte de violence toujours sur le bord d'éclater, de savoir que je ne vais pas gâcher ce temps qui est un temps de privilégié. Mais quand je dis privilégié, dans le sens, ça ne reviendra pas. Ça ne reviendra plus jamais dans cette équation-là.
Vous êtes amusé sur le tournage de Ma mère est folle. C'est un road trip, oui. Donc vous avez dû beaucoup bouger.
J'ai beaucoup aimé Vianney. J'ai beaucoup aimé ce jeune homme.
Votre fils.
Oui, son intelligence. On est très éloignés l'un de l'autre au niveau de la pensée. Mais...
Comme dans le film.
Mais donc, un vrai interlocuteur, un type assez intelligent pour avoir une dialectique.
Et pas être d'accord avec vous, ce que vous adorez.
Oui, oui. Donc moi, j'aimais bien, chaque fois qu'il me disait quelque chose, je disais « abjection ». Donc, et il riait, donc, sans de l'humour. Et puis, la chanson. C'est bien de pouvoir dire à quelqu'un « Vous pouvez me chanter cette chanson ?»
Il s'en souvient.
Et il pouvait chanter à Aznavour ou des trucs que je lui ai demandé, ou Barbara, ou Johnny Hallyday, ou des chansons à lui. Tu vois, c'est comme si vous aviez quelqu'un qui pouvait vous chanter toutes les chansons que vous n'êtes pas capable d'articuler.
À propos de Johnny Hallyday, vous avez joué avec lui dans Conseil de famille de Costa Gavras. Et vous avez mis un couple du tonnerre, je trouve. Oui. Il avait l'air d'un petit garçon à côté de vous. Comment ça s'est passé le tournage avec Johnny Hallyday ?
Très, très magnifique. Parce que justement, Johnny avait cette qualité de la modestie.
Sur un tournage, notamment, où il dit...
Oui. Et puis moi, j'étais le chef de bande de mafiosi. Là,
et Guy Marchand aussi.
Oui. Je me souviens surtout d'avoir... j'étais très fragile à l'époque. Et la protection de Johnny, et on avait fait Paris-Jean Lépin en voiture. Et puis tout d'un coup, on s'était arrêté pour dormir à une ville. Et il disait, oh là là, je suis un peu patraque ce soir. Je vais dîner léger. Et puis, on s'arrête dans le restaurant et la serveuse dit « Bonjour, monsieur Johnny, qu'est-ce que vous voulez ?» Il dit « Des pieds paquets. » Ou alors, il se couche à 3h du matin, mais on se levait à 4h30. Mais la douceur, la protection et l'humilité.
On se retrouve dans un instant avec Fanny Ardant dans le cloître de l'église Saint-Séverin, dans le centre de Paris.
Frédéric Taddeï, en balade avec Fanny Ardant sur Europe 1.
Jusqu'à midi et demi, visitez le Paris de Fanny Ardant, que Frédéric Taddeï a décidé d'emmener en balade aujourd'hui.
Nous sommes avec Fanny Ardant dans le cloître de l'église Saint-Séverin, à l'extérieur de l'église. Donc on ne voit pas les vitraux, pourtant fort beaux, de l'église Saint-Séverin. On en voit les gargouilles qui nous regardent, qui nous dominent. Elles sont au-dessus de nous. On est sous un arbre. Il y a des graviers, il y a des feuilles mortes. C'est un beau décor. Hein.
Ah, magnifique! Magnifique. Justement, tellement à la portée de la main. C'est ça que j'aime dans Paris. Quand vous vous promenez dans Paris, tout d'un coup, vous êtes très malheureux. En une minute, vous dites, bon, pour le moment, je vais m'arrêter. Je serai malheureux plus tard, devant la beauté de Paris. Je ne connais aucune ville dans son immensité. Parce que, bien sûr, Rome est magnifique, mais il centro storico. Est-ce que Paris, même les quartiers les plus populaires ou les plus industriels ou les plus communs, toi, vous avez vu la beauté de Paris ?
Tout le temps, oui.
Moi, je suis éblouie. Et quand je reviens des voyages, je dis vive la pollution, je suis contente de revenir.
Vous devez aimer Naples, alors.
Beaucoup.
Parce que c'est beau, il y a de la pollution.
Oui. Et j'aime beaucoup, beaucoup le désordre, moi, et le chaos.
Oui, j'imagine. Forcément. Cette mère que vous interprétez dans le film de Diane Curie, c'est Ma mère est folle. Vous lui ressemblez dans la vie ? J'imagine que vous pourriez être comme ça. Elle a l'air beaucoup plus vieille que vous.
Oui, elle peut, je peux être comme elle dans les situations désespérées. Avant de me rendre, il m'en faut beaucoup. Quoi. Avant de me résigner. Et c'est que, voilà, le point commun que j'ai avec elle. Et au fond, une sorte de mépris des lois. Je trouve normal qu'il y ait des lois, mais je trouve normal aussi qu'il y en ait qui les enfreignent. Parce que sinon, que ferait la police ? Que feraient les juges ? Il y aurait plein de corporations qui disparaîtraient.
Et la façon qu'elle a de mentir effrontément, je pense que ça doit vous pouvez oui. être capable. Il paraît oui. que vous mentez beaucoup aux journalistes.
Je mens sur les faits. Je ne mens pas sur ce que je crois. Parce qu'à quoi bon ? Mais sur les faits, oui.
Qu'est-ce que vous avez raconté d'incroyable qui s'est retrouvé ensuite écrit dans le journal ?
Que j'étais une vieille fille.
Ah oui ? Comment peut-on le croire ?
Ah, vous êtes galant.
Le Playboy Club, rassurez-moi, c'est vrai.
Ah,
c'est...
Oui.
Vous pouvez pas raconter ça. Pour...
Je peux mentir avec le même aplomb que dire la vérité.
Oui, mais c'est le propre des actrices.
Oui, hein. Absolument. D'ailleurs, dans les commandements de Moïse, il n'y a pas « tu ne mentiras pas ». Il y a « tu ne voleras pas » et « tu ne tueras pas ». Parce que là, le monde bascule. Mais qu'est-ce... On n'a jamais rien fait basculer avec un mensonge.
Ça dépend de la gravité du mensonge. Parfois, ça peut déclencher des guerres.
Ah oui. Mais par exemple, est-ce que vous mentiriez à la police ?
Oh oui, je pense. Pour me sauver ou pour sauver
les autres.
Quelqu'un qui m'est cher.
Oui.
Bien sûr.
Et ou alors que souvent, vous avez épargné de dire une vérité à quelqu'un par délicatesse.
Tous les jours. Sinon, il n'y aurait plus de société.
Exactement. Donc tout ça, je le comprends. Et puis moi, j'ai beaucoup aimé aussi les gens qui me mentaient. Donc je suis assez logique avec moi-même.
Ce qu'il faut, c'est qu'ils mentent bien.
Ah voilà. Sous-estimer l'adversaire, c'est quand même une preuve de bêtise.
Non, parce que ce qui n'est pas supportable, c'est quand les gens ne font pas d'efforts pour vous mentir. Donc ils s'en foutent totalement que vous en aperceviez.
Oui. C'est presque humiliant.
Bah oui. Oui.
Mais je n'ai jamais été en face d'un... Vous savez ce qu'on appelle maintenant les chercheurs de tête.
C'est ça. Les chasseurs de tête.
Ah oui.
Ceux qui veulent recruter.
Oui. Ouais. Moi, je mentirais, mais à fond, à caisse.
Il y a des chasseurs de tête dans le cinéma, ça s'appelle les directeurs de casting.
Mais moi, justement, je me rappelle d'une casting directeur très fameuse qui s'appelait Margot Capelier. Et qu'elle, quand elle y a un jeune homme, elle lui avait dit « T'as quel âge ?» Et il lui avait répondu « Vous me donnez quel âge ?»« 18 ans. » Eh bien, j'ai 18 ans. Donc, tu vois, je trouvais ça intelligent.
Et c'est vrai, je crois que c'était la première directrice de casting, d'ailleurs.
Ouais. Oui. Ouais.
À propos du mensonge, il y a une chanson que vous interprétez que j'aime beaucoup. C'est sur le disque de Jean-Michel Bernard, qui a été le compositeur de musique de deux films,
hein, oui.
Cadence obstinée
et Chimère absente.
Et Chimère absente, voilà, c'est des titres très à la Fanny Ardant. Et il y a cette chanson, Lettre à ma maîtresse.
Oui. C'était mon chien qui voilà. parlait de moi.
Ouais, c'est ça. Et c'est vous qui chantez.
Qui parle.
Qui parle.
Sur la musique de Jean-Michel Bernard.
Oui, oh, vous chantez. Ouais, ouais, ouais. On va vous écouter.
À cause d'elle, je m'intéresse pas aux chiens. J'aime que les mains des hommes. Je mange presque rien. On se nourrit de pommes. Grâce à elle, j'écoute l'opéra, je pisse sur le balcon, on joue au baccarat, elle n'a jamais un rond. Grâce à elle, j'aime Bach, le tango, ainsi que le violoncelle. À cause d'elle, grâce à elle, je vais au cinéma, à Rome ou à Honfleur. Elle dit qu'il ne faut pas avoir honte de pleurs. Moi, j'aime pas trop ça, je supporte pas les cris. Et les cris, il y en a, et des larmes et des rires. Elle dit, sarà quel que sarà, et on va faire comme si. Je me couche tout près d'elle, mes yeux noirs, charbon, avec du rimmel, rêve de saucisson. Grâce à elle, j'aime les cigarettes, les fides en avant, pas tellement les croquettes. J'écoute dans le couloir ses longues conversations, j'aimerais un jour la voir, sa chère révolution. Grâce à elle, je ne suis plus un chien. Je marche à son pas. Et quand elle me dit « Viens », alors tout mon cœur bat au même rythme que le sien. À cause d'elle, je sais tout, je vois tout, pourtant je ne dis rien. Qui est-elle? Que fait-elle? Toujours ce qui lui plaît. Elle n'aime que le noir. Moi, je suis tout en blanc. On peut nous voir le soir sans respect pour les rangs, entrer dans les jardins, s'allonger sur les bancs, oublier nos chagrins. Elle est sans foi ni loi, grâce à moi, grâce à moi.
C'était Lettre à ma maîtresse, interprétée par Fanny Ardant sur le disque de Jean-Michel Bernard, Jazz for Dogs.
Frédéric Taddeï, en balade avec Fanny Ardant sur Europe 1.
La balade de Frédéric Taddeï et Fanny Ardant continue. Et alors, si vous aimez les plats georgiens, écoutez bien.
Nous sommes avec Fanny Ardant, rue des Prêtres Saint-Séverin, dans le 5e arrondissement. Il y a la rue de la Parcheminerie, il y a la rue Bout-de-Brie. On est dans un très vieux Paris, hein, ici. Ça sent le Moyen-Âge.
Ouais. Et vous voyez ce restaurant avec la porte rouge?
Oui.
Pirochmani.
Pirochmani.
C'est un des rares restaurants georgiens de Paris.
C'est d'ailleurs dans des caractères qui me semblent incompréhensibles pour nous.
Et c'est là où une des spécialités georgiennes, le khachapuri, vous avez déjà mangé
ah,
ça?
Non.
Donc il doit y avoir 5 tables.
Comment avez-vous fait pour manger du khachapuri? Vous êtes allé là-bas ou vous avez découvert le khachapuri ici?
Non, j'ai lu un livre sur Staline.
Pour faire votre livre, votre film, Le Divan de Staline.
Oui. Et alors j'ai tout su sur lui, même ce qu'il aimait.
Il était georgien. Hein.
Oui. Ce qui est dingue, si vous...
Devant nous, il y a le musée de Cluny, de l'autre côté du boulevard Saint-Gervais. On va traverser au milieu des voitures. Il y a des cyclistes qui passent. Vous faites du vélo dans Paris?
Non. Non, moi je ne suis pas du tout sportive.
Oui, c'est vrai que c'est un sport, c'est même un sport de combat. Et nous voilà dans la rue de Cluny, remontant
vers la Sorbonne.
Vous qui avez tourné avec François Truffaut, avec André Delvaux, avec Volker Schlondorf, avec Michel Deville, et Torres Scola, Tony Gatliff, Antonioni, Sidney Pollack, François Ozon. À quoi est-ce que vous reconnaissez un grand metteur en scène?
La première qualité d'un grand metteur en scène, c'est cette passion incroyable d'arriver à dire et à montrer ce qu'il aime.
Oui, il faut qu'il ait quand même quelque chose à dire.
Oui. Et sa propre vision du monde, avec ses excès, ses défauts, et pas... Je pense que le cinéma ne doit pas être un cours de morale.
Non, mais ni la littérature, ni rien. D'ailleurs, l'art, normalement, n'a rien à faire avec la morale. Si?
Non, absolument pas. Et grâce au cinéma, morale ou pas morale, on se fait sa morale.
Là, nous entrons dans le square de la Sorbonne, qui se trouve donc entre un petit square, entre le musée de Cluny et la Sorbonne. Ça longe la rue des Écoles.
De loin, vous voyez le symbole de Rome,
la Louve,
avec Romus et Romulus.
C'est vrai, qu'est-ce qu'elle fait là?
Ben voilà, je ne sais pas, mais est-ce que vous y croyez? Moi, j'ai longtemps cru.
À Romus et Romulus, oui. À la légende de la Louve qui les avait allaités.
Et qu'après, vous vous rappelez comment ça continue? Asseyons-nous là.
Il y a un joli banc qui nous attend. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il y en a un qui tue l'autre, non? Comme toujours dans les histoires de frères.
Romulus fait un cercle et il dit le premier qui franchira ce cercle sera tué. Romulus franchit le cercle et il tire son épée et il le tue.
Bah oui, tout cela est assez plausible, on peut y croire.
Et puis moi je pense aussi que un petit enfant peut être nourri par une bête soi-disant dite sauvage, que l'instinct animal est beaucoup plus... Il y a quelque chose de maternel dans les animaux.
Oui,
les
ça animaux on peut y croire, mais en revanche que les enfants ensuite deviennent des enfants normaux, ça on ne peut plus y croire. Les recherches montrent que Tarzan, ça n'est pas possible, ou Mowgli. C'est-à-dire que si on est élevé par des animaux, notre cerveau ne se développe pas malheureusement.
Est-ce que c'est si important que ça d'être normal?
Ou que le cerveau ne se développe pas?
Il ne se développera pas pour devenir grand chef d'industrie, mais il va se développer.
Pas du tout, vous ne pourrez même pas parler malheureusement, vous ne saurez jamais parler. C'est ça qui est triste un peu.
Ah voilà. Vous saurez chanter ou pas ?
Non plus.
Siffler ?
Non, les animaux ne le font pas. Donc vous, si vous êtes élevé par des animaux, malheureusement, la plupart des aptitudes que vous aurez enseignées les êtres humains...
Ça moindrisse.
Et oui, ça n'est plus possible. Bon. Mais c'est tout ce qui caractérise ces grands metteurs en scène pour vous ? C'est-à-dire que c'est la passion ? Il n'y a pas une... Il n'y a pas aussi une...
Une passion, une détermination, une vision du monde différente de la réalité, mais très proche d'une vérité. C'est ça où tout d'un coup vous rentrez dans un autre univers. Vous savez pourquoi avec les grands metteurs en scène on dit « faites de moi ce que vous voulez » parce que d'un seul coup vous rentrerez dans cet univers dont vous n'avez pas vous les clés mais dont lui. Vous savez cette fameuse ambiguïté que le cinéma c'est un art et une industrie. Je pense que les grands metteurs en scène ne pensent qu'à l'art. Ils ne cherchent pas l'industrie. Bien sûr qu'il faut pouvoir entrer avec l'argent, et ça, je ne le sous-estime pas. Mais ce n'est pas la première... Ils ne cherchent pas à plaire. Ils veulent qu'on les aime, mais ils ne cherchent pas à plaire.
Oui, comme... Alors, les peintres, ça doit être différent. Du temps où ils travaillaient pour des seigneurs ou pour l'Église, ils étaient bien obligés de... Mais on peut se dire qu'il y en a certains quand même...
Ah, mais Caravaggio, par exemple.
Oui, rien que lui. Cela dit, Caravaggio, comme il avait eu... C'était un gros bagarreur.
Oui. Hein,
il avait été accusé de meurtre.
Oui, oui.
À un moment, il lui a bien fallu plaire à certains pour...
Oui, mais c'est pas mal, tu sais, comme avoir un cahier des charges. Comment les détourner ? Comment, malgré tout, faire comme si, mais à l'intérieur, il y a des clés de lecture ? Ça me plaît beaucoup. Comme si vous subissiez une contrainte, mais que vous alliez détourner la contrainte, justement, en étant fidèle à votre univers. Et justement, vous vous rappelez, on racontait que Caravaggio s'était fait jeter parce qu'il avait peint la mort de la Sainte Vierge et qu'elle avait les pieds sales. Et que c'est pour les prêtres de l'Église à l'époque, c'était pas possible. Et donc, ça me plaît, ça. Et que maintenant, c'est un des plus grands tableaux. Caravaggio a aussi lutté contre les apparatchiks.
Il y en a encore toujours des apparatchiks aujourd'hui.
Je pense, moi, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que ceux qui vraiment creusent sous terre, ils obéissent à personne.
Ouais, il faudrait plus creuser sous terre.
Oui. Ou descendre de plus en plus sous terre.
Ben, on ne va pas descendre sous terre, on va entrer dans la librairie Compagnie,
ah oui,
qui est juste en face.
Mamma mia, comme j'aime cette librairie.
Oui, c'est vous qui l'avez choisie. Il faut dire que c'est une des librairies les plus réputées à Paris.
C'est vrai?
Oui, elle a la réputation d'être une librairie fantastique.
Ah oui, fantastique.
Donc c'est là qu'on peut vous croiser. Je me demandais où on pouvait croiser Fanny Ardant. On peut la croiser.
Et moi, c'est vrai que les livres, je ne les choisis qu'avec la quatrième de couverture. Vous savez, ou comme les chiens.
Vous les renifler.
Oui, et on se dit, promesse de bonheur ou non.
Bon, ben, je vais vous regarder faire. On entre dans la librairie. On se retrouve juste après les infos.
Frédéric Taddeï vous emmène en balade avec Fanny Ardant sur Europe 1. Europe 1, en balade avec Fanny Ardant, Frédéric Taddeï.
Nous sommes aujourd'hui en balade avec Fanny Ardant, dans le quartier latin. Nous voilà devant la librairie Compagnie, qui se trouve au 58 rue des Écoles. Et nous entrons au rez-de-chaussée, c'est littérature. Au sous-sol, c'est sciences humaines. Et Fanny Ardant se précipite sur les livres. J'ai toujours l'impression que vous avez tout lu.
Pas mal quand même, oui. Dans une librairie, il y a beaucoup de tout ce qu'on ne sait pas. Parce que moi, je ne lis pas les journaux, donc je ne sais pas ce qui sort. Et je ne sais pas les critiques. Je ne connais pas les commentaires.
Donc vous prenez des risques.
Oui.
Pourquoi?
Ou alors je lis très tard un livre dont tout le monde a parlé. Je me rappelle de Vassili Grossman, dont je dis, je viens de tomber sur un livre. Prodigie, on me dit, oh, sors de ton trou, ça fait 10 ans que ça a été
publié. Vieux destin.
Oui. Vous ne trouvez pas d'arriver vierge à un chef-d'œuvre, que personne ne vous ait rien dit, et d'avoir découvert vous-même que c'était un chef-d'œuvre?
C'est pareil pour les films, non?
Oui, oui.
Voir un film sans juste tout savoir de quoi il parle.
Moi, je me rappelle être arrivée en retard à une projection comme ça quand je faisais mes études. Et j'ai vu un petit film en noir et blanc, puis j'ai retrouvé des amis. On m'a dit, où est-ce que t'étais ? C'était pas en cours. J'ai dit, non, j'ai vu un petit film extraordinaire. Alors on me disait, mais c'est quoi ce film ? Alors je raconte, et il y a un des amis qui a dit, tu te fiches de moi ou quoi ? C'est La Source de Bergman.
Pourquoi vous êtes-vous mis à lire autant ? Parce que vous vous ennuyez ?
Pourquoi on se drogue ?
Parfois, c'est pour s'amuser davantage. capitaine. Alors que pourquoi est-ce qu'on lit ? Souvent, c'est parce qu'on s'ennuie.
Non.
Non ?
Ouais, tu vois, pour agrandir.
Là, oui, il y a Caravage à Rome, ouais. le livre.
Ça, je l'avais vu, l'exposition Caravage à Rome.
C'est au musée Jacques Marandré actuellement.
Oui, oui.
On est au rayon des livres sur la peinture. À part Caravage, qui sont vos peintres préférés, Fanny Ardant ?
J'aime bien Piero della Francesca. J'aime bien Puvis de Chavannes.
C'est vrai ? Puvis ouais. de Chavannes.
Ils ont l'air d'attendre quelque chose, les personnages. Ouais, ils sont... Moi, quand je fais une photo de famille, je dis « Mettez-vous comme des personnages de Puvis de Chavannes, le temps qu'on comprenne qui est-ce. »
C'est une bonne idée.
Et vous savez qu'en bas, il y a aussi... Vous connaissez en bas ?
En bas, c'est les sciences sociales. Nous descendons au sous-sol de la librairie compagnie. À droite, sciences humaines, philosophie, histoire, religion. À gauche, revues, policiers, guides, dictionnaires. Ouais. Il y a moins de gens de ce côté-là.
On peut tout trouver. Tout. Et puis les libraires, ils sont très... Enfin, on peut dire... Je voudrais un livre dont je ne me souviens pas du titre et pas de l'auteur. Ils disent oui, mais plus ou moins. On dit une petite phrase, paf, ils le trouvent.
Ils trouvent. Ouais. Ça, c'est génial. La littérature, je sais ce qui vous plaît, c'est la liberté, c'est la résistance, au fond.
Oui, et puis une voix dans le noir. Quelqu'un, tout d'un coup, qui vous dit quelque chose comme si ça vous était directement adressé.
J'ai l'impression que vous mettez l'amour au-dessus encore, au-dessus de la liberté. Pour vous, on peut sacrifier sa liberté par amour, non ?
Oui. Ben oui.
Vous l'avez fait souvent ?
Je parlerai en face de mon avocat.
C'est pas un crime. Je sais bien qu'aujourd'hui, ça peut être mal vu.
Ah non, non, mais moi, par exemple, justement, quand je vous disais « faites de moi ce que vous voulez » ou
tu vois,
l'adoration perpétuelle ou la servante au grand cœur, ça, c'est des choses que j'adore.
Ouais.
De ne pas se sentir amoindri par la rémission.
En même temps, vous ne vous sentez jamais victime. Vous n'avez jamais joué de victime, j'ai l'impression, ni au cinéma, ni au théâtre. Non. Vous l'avez soigneusement évité parce
Non,
que...
mais c'est intéressant, parce que non, ça pourrait arriver. Ce n'est pas du tout un refus.
Ouais.
Vous voyez, par exemple, les personnages de Dostoïevski. Ils ont une grandeur à l'acceptation d'être une victime. Quand vous parlez du prince Mishkin, que tout le monde traite d'idiot, parce qu'il arrive là... Comme ça, comme un boxeur doit pas arriver, c'est-à-dire sans se protéger. Ça, pour moi, c'est l'absolu de l'être humain. Qui n'a jamais il ne se sentira humilié, jamais il ne se sentira exploité. Il ne cherche pas à être compris, il donne. Donc, par définition, on va profiter de lui. Mais comme il est au-dessus de ça. Donc, peut-être que quand vous dites victime, il y a aussi victime consentante ou victime offerte.
Oui, c'est pas celle-ci qu'on exalte aujourd'hui plutôt. C'est les victimes qui n'avaient rien demandé, sur non. qui c'est tombé.
Oui. Mais tôt ou tard, on est toujours victime. Ça fait comme partie du... Je sais que si on est dans un monde, on dit comment maigrir sans souffrir, comment arrêter de fumer sans souffrir, et comment, j'avais vu un jour un article, comment se séparer de l'homme que vous aimez sans souffrir. Mais comment est possible ?
On va y réfléchir, on se retrouve dans un instant au sous-sol de la librairie Compagnie avec Fanny Ardant.
Frédéric Taddeï en balade avec Fanny Ardant sur Europe 1.
Tout de suite, Frédéric Taddeï dans une librairie du 5e arrondissement de Paris, toujours en compagnie de Fanny Ardant.
Nous sommes devant le rayon des livres policiers, très fourni, au sous-sol de la librairie Compagnie. Vous aimez les policiers, alors ?
Oui, mais j'aime un policier quand il a un style. Par exemple, j'aime beaucoup James Ellroy, à cause de la langue, à cause du style, à cause de l'atmosphère. Vous voyez, par exemple, quand vous prenez David Lynch... Il peut vous raconter un fait divers ou un thriller, mais c'est son style qui compte. Ce que vous retiendrez de David Lynch, c'est son style. Eh ben, dans les littératures policières, vous vous souviendrez du style. pas qui a fait le coup, on s'en fout. Peut-être que quand j'étais jeune, j'ai aimé Agatha Christie, mais ça ne m'intéresse plus. Toi, bon, ça y est.
Oui, c'est plus un génie de l'intrigue que du style.
Oui. Et puis, de toute façon, après, quand j'étais jeune, je me disais, celui qui est le moins coupable, ça doit être lui.
Oui, chez Agatha Christie, c'est souvent
ça. Oui, mais en même temps, c'était bien fait. Hein.
Dans la littérature policière, ce qui doit vous plaire, c'est l'immoralité qui peut gouverner chez certains personnages. Je me demande toujours si vous êtes immoral ou amoral.
Amoral.
Amoral. Hein. Oui. Immoral, oui. Ça voudrait dire que vous êtes contre la morale. Amoral, ça veut dire que vous êtes sans morale du tout.
Ou j'ai la mienne. Vous savez, quand on lit les romans d'autrefois où on parlait de l'honneur,
oui.
Je peux comprendre que l'honneur était important. C'est comme une forme de morale. Ou quand on avait donné sa parole, vous voyez.
Et bien, il y a la fidélité aussi, par exemple. C'était important autrefois, ça l'est moins aujourd'hui, quoique. Vous citez souvent une phrase de Marguerite Duras qui dit « Aucune relation conjugale ne résiste à un inconnu qui rentre dans un bar ». C'est quand même la phrase la plus amorale du monde.
Et oui.
Ou la plus immorale, je ne sais pas.
Mais elle a eu le courage de le dire.
Et vous de le répéter.
Oui, mais elle l'a dit dans les années 60.
Ouais.
Ouais. Peut-être qu'on revient aux années encore plus anciennes que les années 60, dans le puritanisme.
Oui, dans le conformisme, d'une certaine manière.
Alors pourquoi ? Parce que par peur ?
Je ne sais pas. Il faudrait demander aux conformistes.
Oui, ou quelque chose qui était trop... où on avait besoin de murs pour être sécurisé, que si on était toujours sur un terrain glissant.
Mais c'est drôle, si vous pensez à un film comme « Ma mère est folle », par exemple, hein, que vous jouez, dont vous tenez le rôle principal... Dans les années 70, ça ne serait pas du tout terminé de la même manière, sans dévoiler la fin. Mais ça aurait été totalement autre chose.
Oui, ça, aurait, complètement.
Mais, ça aurait été impossible de faire une fin pareille. Non. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde trouve ça normal.
Oui.
C'est ça qui est amusant.
Et quand on parlait de certains metteurs en scène, on va parler souvent des metteurs en scène italiens, je pense que Pasolini, il aurait beaucoup de mal à se faire produire.
Pas que lui d'ailleurs. Mais
Antonioni, toi.
Oui, c'est sûr. Mais aussi parce que les gens, autrefois, enfin à cette époque en tout cas, allaient au cinéma pour voir les films de grands cinéastes. Aujourd'hui, on va au cinéma comme on va au parc d'attractions, pour avoir des sensations, des films de super-héros, des films de fin du monde. On va voir Fast and Furious numéro 8.
Oui, mais ce qui est bizarre dans notre époque, c'est que je trouvais que notre époque, il y avait de la place pour tout le monde. Alors pourquoi pas les uns et les autres, tu vois ? Entertaining, et puis... Tout d'un coup, on poussait une porte et un couloir obscur d'un univers.
Ouais, c'est une belle question.
Paris reste une des villes où il y a le plus de possibilités de voir des films comme ça, justement dans ce quartier, où il y a plein de films avec des Iraniens, Turcs, Danois. Ça, c'est une des dernières villes dans le monde où on peut voir des films du monde entier.
Vous vous souvenez des premiers films que vous avez vus quand vous étiez enfant ?
Oui.
Ça vous avait marqué à l'époque ?
Très.
Donc c'était important déjà.
J'avais vu... La princesse de Clèves, j'ai oublié mais c'était avec Marina Vladi, Jean Marais et Jean-François Poron. Donc quand il n'y avait pas la télévision chez moi, donc j'avais jamais été au cinéma, ça a été un grand, grand choc.
Vous l'avez lu depuis, La princesse de Clèves ?
Oui. Ah, magique.
Ah oui ?
Magique. Parce que justement, mais je pense que Madame de Lafayette se serait bien entendue avec Marguerite Duras. Tu vois, parce que c'était d'autres codes. Mais elle permettait à l'amour dit extra-conjugal d'avoir sa force, tu vois. Elle ne la niait pas. Elle s'en défendait, Madame de Lafayette, mais elle ne le niait pas.
Il y a une autre chanson que vous avez chantée, que j'aime bien, qui est très osée, celle-là aussi. C'est « Mater admirabilis ». Vous vous en souvenez de cette chanson ?
Insensé que vous connaissiez ça.
Eh oui, c'était la chanson générique de « Miroir, mon amour ».
Oui,
c'était ça.
De Sylgrid Alnois.
Eh bien, on va l'écouter. C'est spécial.
Oh, mon amour. Very, very special. Oh, mon amour incombustible. Tu viens de là où d'autres rentrent, même à fêlure en bas des ventres. Je suis ta haine, ta pourriture, ta honte et ta nourriture. Tu me connais dans mes recoins, je te reconnais sous mes seins. Oh mon amour, oh mon miroir, je suis ta reine imputrescible. Notre désir est cannibale, je suis ton dégoût, tu m'avales. Tu es mon éjaculation. Je voudrais mourir d'invasion, déchirer les robes et la peau. enfin en palais par le haut. Oh mon amour, oh ma figure, je me vois avant la souillure. Tu me ressembles et tu me hais, un matin nous serons en paix. J'entends encore dans mes grands bois ta voix d'enfant riant pour moi, criant maman comme une bête, j'ai tellement peur que ça s'arrête. Oh mon miroir, oh ma cassure, je ne suis plus qu'une blessure. Sois sage, ma douleur, dit-il. Promis, je me tiens plus tranquille. Au ventre, il y a que ça explose. L'effroi pour le noir s'interpose. T'inquiète, bientôt, je serai seule, avec de la terre plein la gueule. Oh mon amour, oh mon miroir, tu es plus tranchante qu'un hachoir. Je te souhaite beaucoup de joie. Un seul prince met beaucoup de proie. Je partirai sans révérence, te léguerai l'incandescence. Ma viande fut lardée, secouée, mon cœur à ton père est resté. Oh mon amour, oh mon miroir, ne me juge pas, non pas ce soir. Il n'est plus temps, il est très tard. Prends donc mes talons et mes phares. Prends aussi mes robes de raclure, monteront les sangs aux figures. Je sais d'avance que tu es moi, souillez ta beauté hors des draps. Tu es ma fille, ô mon amère, mais bien un jour tu seras mère. À chaque souffle, chaque seconde, tu rêves que l'on te dévergonde. Je suis fatiguée, ma blancheur, et je souris à nos noircelles. Tout mon sang n'y suffira pas, mes battements quittent mes pas. Ô mon amour, ô mon miroir, réfléchis-moi, ô mon espoir. Tu vas à ton tour me porter, comme une mort sur un baiser. Tu vomiras ce que tu es, te coloreras à mon reflet. Tu te débats avec la vie, je me débats avec la mort. Oh mon enfant, mon espoir, viens goûter à mon désespoir. Oh mon amour, mon espoir, ne me juge pas, non pas ce soir. Viens contre moi, pose ta tête, j'ai tellement peur que tout s'arrête. J'ai tellement peur que tout s'arrête.
Mater Admirabilis, chanté par Fanny Ardant, un peu osé.
Oui, à pas mettre dans les classes enfantines, par exemple, pour apprendre le solfège.
Ni dans les classes de latin. On se retrouve juste après une pause avec Fanny Ardant.
Frédéric Taddeï, en balade avec Fanny Ardant sur Europe 1.
La balade de Frédéric Taddeï et Fanny Ardant touche à sa fin. Pour ces dernières minutes, on les rejoint encore dans le 5e arrondissement.
Nous avons quitté la librairie Compagnie. Nous sommes juste derrière, dans l'ancienne rue des Mathurins Saint-Jacques, aujourd'hui la rue du Somme Rare, juste devant l'Institut. C'est l'Institut Finlandais, ici.
Ils ont l'air de bien travailler.
Oui, on les voit derrière les vitres, derrière des tables sur des tables en bois. Mais là, c'est la pause, je ne sais pas, c'est le restaurant. Ils font brunch.
Oui.
Pour moi, vous êtes évidemment l'héroïne de Vivement Dimanche, qui est un de vos films que je préfère, oui. Dans lequel vous êtes absolument magnifique. Qu'est-ce que vous faites le dimanche? Parce que c'est une émission qui est diffusée le dimanche, en balade avec...
Je mange du chocolat.
C'est vrai?
Et puis,
Ça se voit pas, mais vous êtes très mince.
Mais
là, il y a des Krishna qui passent. C'est marrant, on se croyait dans les années 70.
Non, complètement. Mais
qu'est-ce que vous faites? Vous mangez des chocolats, tout bêtement, voilà, comme ça.
Et si j'ai rien à faire, je m'allonge sur mon lit et je lis.
Ah oui, vous êtes le genre, le dimanche, on ne fait rien, quoi.
Oui. Et puis, arrive 5 heures de l'après-midi et déjà une vague de tristesse m'envahit. Ben, ça, c'est lié à l'école, sûrement.
Ah, parce que vous pensez au lundi où il va falloir retourner à l'école et vous n'avez pas fait vos devoirs.
Exactement. En faisant tout ce qui est en retard, tout ce qui est...
c'est Vittorio Gassman, je crois, avec qui vous avez tourné dans le film Benvenuta, le film de Belmo, qui vous demandait toujours si vous saviez vos lignes, ce qui veut dire si vous aviez appris votre texte. Est-ce que vous l'aviez appris, votre texte?
Oui, bah parce qu'il était très exaspéré par le cinéma, lui, c'était surtout un homme de théâtre. Donc il disait, on ne va pas recommencer pour une abrutie d'actrice qui se trompe dans son texte. Je disais, mais je croyais qu'en Italie, on disait n'importe quoi.
Vrai, normalement, on compte, on dit 1, 2, 3, 4, et puis après, il vous double par des vrais acteurs.
Oui. Il disait, on ne va pas perdre son temps pour quelqu'un qui va annoncer son texte, parce qu'il voulait toujours aller vite. J'ai beaucoup aimé Gassman.
Vous avez eu plutôt de la chance, vous avez eu des partenaires masculins.
Ah oui, magnifique.
Entre Depardieu, Trintignant.
Et j'aime beaucoup les acteurs, vous savez, quand ils sont de l'autre côté de la caméra, quand on est en vis-à-vis, qui jouent autant que s'ils étaient...
Alors qu'ils sont hors champ.
Oui, c'est là où vous voyez les personnalités d'acteurs que vous aimez. Parce que jouer, par définition, allez, on va jouer. Je serai le gendarme, je serai le voleur. Et que ça ne s'arrête pas parce que juste vous n'êtes pas imprimé par la pellicule. Ouais. Ça me plaît beaucoup. Je ne veux pas qu'on me rappelle qu'on est en train de jouer.
Dans Ma mère est folle, vous avez comme partenaire un petit garçon qui ne dit jamais un mot.
Il
dit toujours non. C'est un petit immigrant bosniaque.
Oui.
Et lui, ça a été comment dans les champs contre champs? Il jouait aussi.
Il avait ce visage magnifique et puis très intelligent. Donc il riait. Beaucoup de choses le faisaient rire.
C'est un petit immigré clandestin. Vous avez vu comme le personnage de l'immigré clandestin est omniprésent dans le cinéma international aujourd'hui. Dans tous les films, on voit des immigrés clandestins.
C'est vrai?
Ouais.
Bon, ça fait partie de notre histoire, finalement.
Ça fait partie de notre époque, au fond. Mais moins on veut les voir en vrai, plus on les voit au cinéma.
Intéressant. Mais ça, on nous demandera de rendre compte de nos actes.
Vous pensez?
Oui. Parce que moi, chaque fois que je traverse la France en train, et je vois ces vastes étendues, ces villages, et je dis, il y avait de la place. Il y avait de la place pour tous, toi. Et que je trouve ça une tristesse.
Mais en même temps, souvent, on habite des grands appartements et on se dit, il y a de la place, il y a de la place, on n'est pas prêt à les ouvrir pour autant.
Non, c'est vrai, mais que ça commence par une ville. Vous avez vu, dans les Abruzzes, il y avait les Italiens qui ont... Parce qu'ils manquaient de professeurs, ou d'ingénieurs, ou d'agronomes. Donc, des gens qui attendent, par exemple, la fin d'une guerre. Pourquoi la France croit qu'on a absolument envie de vivre en France? C'est en attendant d'eux. Alors,
Vous avez quitté la France, vous avez vécu longtemps en Italie. Elle vous manquait ou pas?
Oui, par exemple, bizarrement, je suis très peu nationaliste. Mais c'était des histoires d'odeurs, des histoires de pommes de terre frites, de pain, de livres, Paris.
Je viens de voir à vos doigts, vous avez des bagues,
des
serpents.
Oui.
Vous n'avez que des serpents enroulés autour des doigts. C'est quand même bizarre, non?
Oui.
Vous aimez particulièrement les serpents?
Non, ça s'est passé comme ça. Quand je pense à la France aussi, c'est à cause de la littérature. Moi, j'ai beaucoup aimé les livres à travers, d'abord, par exemple, je me suis fait une idée de Venise grâce au roman. Et quand vous lisez justement Balzac, vous avez envie d'aller en Touraine, vous avez envie d'aller en Anjou. Parce que d'un seul coup, le prisme de la littérature vous force à voir une beauté. C'est comme le cinéma, d'ailleurs. Le cinéma isole une beauté que vous n'auriez pas vue.
Par exemple, la beauté des sirènes. Aux États-Unis, ils ont des sirènes très, très belles.
Ah oui.
On les entend dans les films américains.
Oui.
Les sirènes sont toujours splendides.
Moi, je me méfie beaucoup des sirènes. Je pense que c'est des gens qui ont horreur des embouteillages, hein, qui ne sont pas là pour sauver l'humanité.
Oh, mais si, il y a quand même des ambulances.
Ah voilà, les ambulances et les pompiers.
Ouais. Merci, Fanny Ardant, de nous avoir emmenés en balade aujourd'hui dans le quartier latin.
J'aimais beaucoup notre conversation. Merci
vous
infiniment.
Vous êtes gentil. Ouais. Je rappelle que vous tenez le rôle principal de Ma mère est folle, le nouveau film de Diane Curis, qui sort le 5 décembre. Je vous souhaite une bonne journée. Je souhaite une bonne journée à tous nos auditeurs. On se retrouve dimanche prochain à 11h pour partir à nouveau en balade avec Mystère.
À la semaine prochaine, Frédéric. Je vous rappelle que si vous voulez réécouter cette émission, ou les autres d'ailleurs, vous pouvez, pour ça, rendez-vous sur notre site internet europe1.fr.